Bon.
On va y aller. Hein.
On va y aller.
Répétition, inconscient, moi, culpabilité, lapsus,
désir, psychose, phobie, sexualité,
complexe, lapsus, culpabilité,
moi, culpabilité, complexe,
moi, inconscient, lapsus, répétition,
sexualité,
complexe,
désir, psychose, phobie, culpabilité,
désir, moi,
répétition,
inconscient, sexualité, complexe,
culpabilité,
lapsus, culpabilité,
lapsus,
moi,
sexualité,
répétition,
psychose,
phobie,
sexualité,
lapsus, culpabilité, moi, inconscient, répétition. Ah, je vais dans l'autre sens?
Oui, d'accord, ok.
MDL, les mots délivrés des livres. Pour écouter autrement.
Sans faire trop sérieux non plus.
Faut quand même être un peu sérieux des fois.
Ok.
Sur la trace des mots.
Sur les chemins de notre intériorité.
Une ouverture éclair.
Sur des livres qui se livrent.
Mais qui se lisent aussi.
Olivier Lostis de l'Esperluette.
Gabriel Seban, qu'on espère net. Aujourd'hui, une réflexion qui t'a inspiré, une réflexion sur le deuil, à partir de 3 bouquins.
Oui, c'est, je crois, Freud qui a le premier évoqué le travail du deuil, voilà, sous cette forme, parce que bien évidemment, ça fait depuis que l'humain est humain que des rituels et des manières de faire existent. Mais le travail psychique du deuil, au sens où Freud l'entendait, a priori, c'est lui qui l'a élaboré en premier lieu. Parce que c'est un peu compliqué cette histoire si on y songe un peu. Faire son deuil, c'est une injonction aujourd'hui. Hein. On fait le deuil de tout. Même si l'on a perdu quelqu'un d'irremplaçable, il faudrait faire le deuil. D'ailleurs, les cimetières sont pleins des gens irremplaçables. Paraît-il, manière de dire que tout le monde est remplaçable et qu'au fond, on peut toujours oublier ou remplacer. Souvent, hein, c'est ça, travail de deuil, faire son deuil aujourd'hui. Mais peut-être que non. Peut-être que parfois on peut remplacer quelqu'un dont la fonction est difficile à remplacer, mais pas impossible à remplacer. Et peut-être que parfois on perd aussi l'irremplaçable. Peut-être que le deuil n'est pas toujours le même travail. Je recevais d'ailleurs il y a quelques jours à la librairie un auteur qui a écrit sur la perte de son fils qui s'est suicidé. Il disait « Moi, j'aime pas l'expression « faire son deuil ». Je dis que c'est le deuil qui nous fait. » Il s'agit de Hervé Poins hein, qui a écrit « Mes petits mots de billet », un livre autobiographique qui raconte comment il s'en est sorti. Par ailleurs, dans un très joli roman, « Danse d'atomes d'or » chez Alma, Olivier Liron raconte l'histoire de la rencontre entre deux jeunes gens, puis de leur passion amoureuse intense, sauf que la jeune femme disparaît. Le jeune homme, lui, ne s'en remet pas. D'autant qu'il ne sait pas pourquoi elle a disparu, comme dans une mort incompréhensible, et du reste, cette jeune femme est partie parce qu'elle se savait condamnée par une maladie incurable. Et lui, ben, il va enquêter pour savoir, c'est-à-dire pour mettre quelque chose à la place de rien, à la place d'une absence de sens. Il y parviendra parce qu'il trouvera une lettre qui explique d'une part et qui dit combien elle l'aimait d'autre part. Alors bien sûr elle est morte, mais lui n'a pas besoin d'aller la chercher comme Orphée. Lui va chercher Eurydice en enfer, mais puisqu'elle, elle lui donne de quoi mettre quelque chose à la place. Il reste triste, certes, mais il a quelque chose pour lui qui bouche le trou. Il fait son deuil en substituant à la perte très réelle de la mort la preuve vivante de son amour. Il est réparé en quelque sorte. Ça peut même aller beaucoup plus loin. Éric Chevillard, dans Ronce Rose, aux éditions de Minuit, centre son histoire autour d'une petite fille qui vit recluse par son père. C'est pas du tout un père malveillant. Simplement, ses activités professionnelles supposent la plus grande des clandestinités. C'est un bandit. Donc Ronce Rose, telle une Alice, mais de notre côté du miroir, va devoir sortir de la maison qui constituait jusque-là tout son univers. En effet, un jour, son père ne revient pas. D'ailleurs, on apprendra un tout petit peu plus tard dans le livre qu'il est mort à l'issue d'une course-poursuite avec la police. Et donc Alice sort de chez elle et elle rentre dans le monde, donc, pour retrouver son père. Mais là n'est peut-être pas le plus important. Comment, en effet, pourrait-on entrer dans le monde et faire le monde à chaque génération sans que ceux qui le font avant nous ne disparaissent, ne nous laissent progressivement la place, sans que les anciens meurent et sans que nous mourions à notre tour un jour pour laisser la place aux plus jeunes. Le monde ne se réinvente que du deuil de ce qui lui précède. C'est la mort qui nous pousse à donner la vie. Que serait la promesse d'une vie éternelle, sinon celle d'un monde mort et figé ? C'est un ordre des choses en quelque sorte. Mettre autre chose, quelqu'un d'autre, une autre idée à la place de l'ancien ou de l'ancienne, suppose que le vieux, l'ancien, l'ancienne meurt. Il y a une radicalité là-dedans. Radicalité qui n'empêche bien entendu pas la tristesse. Mais il y a une autre forme de radicalité, inverse en quelque sorte, qui celle-là est peut-être radicalement impossible. C'est lorsque le deuil n'est pas dans l'ordre des choses, ou, mais c'est peut-être la même chose, que la perte est irremplaçable. Par exemple, dans Winter is Coming, chez Gallimard, Pierre Jourde raconte la dernière année de la vie de l'un de ses fils atteint d'un cancer incurable. C'est, au pied de la lettre, un désordre des choses. Les disparitions ne se font pas dans ce sens-là. C'est même d'un avenir dont il faudrait cette fois faire le deuil. Ce livre est peut-être la démonstration d'autre chose, qu'il est possible de vivre, de faire quelque chose de beau, ce livre par exemple, qui est très beau, mais que le deuil ne se fasse pas, ou du moins pas sous la forme de l'injonction à laquelle on nous y invite lorsque nous perdons quelqu'un de très proche. Et qu'au lieu d'un travail de deuil, donc, on ait un travail pour garder la place au vide et à la souffrance, mais vivre encore.
Alors, question qui vient à la suite de ces projets de lecture, c'est le deuil est-il un processus psychologique d'amortissement d'une perte ? Et le chagrin peut-il ne pas se résorber finalement par le deuil ?
L'amortissement d'une perte, ou plus radicalement justement, est-ce que le deuil peut signifier nécessairement oubli, ou bien même est-ce que le deuil peut signifier disparition de la souffrance? Le même Hervé Poins dont je parlais tout à l'heure, lui disait que la souffrance, on ne peut l'user qu'à force d'en parler, on l'use avec les mots, avec des mots sans cesse répétés. Mais c'est pas du tout la même chose, l'oubli ou la disparition de la souffrance. Je préfère penser que le deuil n'est peut-être pas la question centrale, justement. Peut-être qu'il n'y a pas à choisir entre l'oubli, la disparition de la souffrance, ces choses-là. Peut-être que faire un travail de deuil est un peu toujours vite dit. Et bien, je préfère la question « comment vivre ?» parce que le deuil est peut-être à l'origine, le terme valait, mais aujourd'hui on l'utilise un petit peu à toutes les sauces. Et le « comment vivre ?» on l'oublie un peu parfois. Hein. Par exemple, faire le deuil de quelqu'un qui reste présent, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est juste le deuil d'une relation, mais c'est pas le deuil de quelqu'un de disparu, c'est pas du tout comparable. Il n'y a pas du tout la charge d'un réel aussi radical que la mort d'un proche, par exemple, dans la mort d'une relation. Hein. Une relation, ça se remplace. Pourquoi pas dire qu'elle s'oublie, ou du moins qu'elle s'efface, que voilà, un disparu très très proche, je crois que souvent on préfère garder le souvenir vivant, au contraire.
Oui, à méditer, effectivement.
Au milieu des deux, là, entre les parenthèses, entre les virgules, il y a vraiment la collection, elle est là. Elle est juste à l'intérieur de cette parenthèse. De cette parenthèse. Un truc là qui claque, un truc là qui claque. De. Vous inquiétez pas, ça repart.
Jimmy était un de ces hommes occupés à tracer au couteau le sillon de sa destinée de self-made man. Cette petite violence lui était nécessaire pour s'imposer dans la rudesse de la réalité. Une réalité qui lui fit comprendre que la concurrence n'était pas un vain mot dans la lutte acharnée pour exister comme et quand il le voulait. Dans ces rares moments de déprime, Jimmy regrettait pourtant de sacrifier un certain bien-être à ce combat permanent et sans concession. Très vite, cependant, il relativisait son état d'âme et convenait que la seule affirmation de soi éloignait la perspective de la dépendance et de son ombre portée, l'attachement. Il considérait ces états comme des fléaux de l'humanité. D'où son choix de fuir comme la peste le risque de s'attacher, concession larmoyante à une souffrance assurée. Craignant même de devenir addict à des substances capables de générer des plaisirs sournois, il s'imposa des privations qu'il transforma en sublimation. Il se félicitait de la haute tenue morale de sa philosophie et reconnaissait que la valeur transactionnelle de l'argent l'affranchissait de toute exigence relationnelle avec ses vis-à-vis. Faire le deuil de quelqu'un ou de quelque chose devenait une lourde preuve du piège dans lequel il ne fallait pas tomber, même au prix du déni, en muselant ainsi toute reconnaissance a posteriori d'un attachement préalable fortuit. Et puis, cela était contre nature. La vie ne faisait-elle pas disparaître naturellement ceux à qui certains avaient cru pouvoir s'attacher impunément? Seul le masochisme justifiait l'affection pour quelqu'un effacé de la surface de la terre. Une image qui ne pouvait qu'inciter à se projeter vers sa propre mort. C'est pourquoi il lui fallait fuir, aller se poser sur de nouvelles donnes à butiner, sans jamais faire le deuil du désir persistant de sa propre immortalité.
Scratching for a braid that's not been grown yet, that's not been grown yet. 'Cause I was a child with fists of fury, or I was a child with fists of fury, and I didn't learn my God bless, and I didn't need my full skirt. Oh, I didn't learn my God bless, and I didn't need my full skirt. God bless, and I didn't need my full skirt to bear.